Vous écoutez, on lit pour vous.
Mission, la robotique pour tous et toutes. Un texte de Lila Dussault, paru le 18 mai 2025 dans La Presse. La robotique, ils en mangent. Pendant des semaines, ils créent de toutes pièces un robot qui leur permettra d'affronter les meilleures équipes du monde. Puis, ils partent en mission. Aujourd'hui, ils souhaitent que tous les élèves du Québec aient la même chance. L'ambiance est survoltée lors de notre passage au collège privé Regina Assumpta dans le nord de Montréal, fin février. Les élèves peaufinent les derniers détails de leur robot. Dans quelques jours, ils s'envoleront pour affronter d'autres équipes à Vancouver. La saison des compétitions de robotique est enfin ouverte. Ces élèves sont prêts à voir en action le fruit de dizaines d'heures de travail. Ils en parlent avec un grand sourire et de l'excitation dans la voix. Surtout, ils ont beaucoup d'informations à transmettre. Leur défi cette année était de fabriquer un robot capable notamment de mettre des ballons et des cylindres sur une structure centrale. Le thème, les récifs. L'idée est de développer un outil technologique qui pourrait réparer les coraux dans l'océan. Contrairement aux idées reçues, les robots des compétitions de robotique ne se battent pas entre eux. Ils doivent plutôt accomplir des tâches précises et complexes le plus rapidement possible. Et ce, en formant des alliances. C'est un défi d'ingénierie. On a un problème avec des milliers de solutions possibles, dit Zijian Sun, membre de l'équipe Tech for Kids 3990 du collège Regina Assumpta. Les élèves de Regina Assumpta savent qu'ils sont chanceux. Leur école secondaire déploie l'un des plus importants programmes de robotique au monde. Plus de 600 jeunes s'y adonnent chaque année, sous la supervision du responsable passionné Sylvain Gauvreau. Ils se sont donc donné une mission, rendre la robotique la plus accessible possible pour tous. Rêver d'un programme robotique-études. L'un des enjeux, selon eux, est que la robotique exige beaucoup de ressources et de temps, mais n'a pas de programme scolaire qui lui est consacré. Le défi, c'est de continuer avec nos travaux scolaires en même temps que la saison de robotique. C'est pour ça qu'on rêve que ce soit considéré comme un sport-étude, explique Angie Abou Antoun, élève de 5e secondaire. Le Québec compte 34 équipes de robotique, une baisse importante par rapport aux 52 actives avant la pandémie. Cette diminution s'explique en partie par le manque de temps, de reconnaissance et de lieux voués à ce sport, estiment les jeunes. Responsable du programme de robotique du Collège Regina Assumpta, Sylvain Gauvreau dit « L'Ontario est tellement en avance par rapport au Québec. Là-bas, la robotique est propulsée et financée par l'industrie automobile. Ici, on a Bombardier, mais c'est à plus petite échelle. Aux États-Unis, ils ont la NASA. Et en Californie, tout le milieu des technologies et de l'intelligence artificielle. Et si on changeait notre regard sur la robotique? C'est la solution proposée par ces élèves enthousiastes. La robotique pourrait-elle être un sport? Oui, tranche Zijian, Maude, Maria et Angie. Et comme les échecs sont reconnus comme sport en France depuis l'an 2000, arguent les élèves. Comme le billard, devenu un sport olympique en 1998, même s'il n'a jamais été inclus dans le programme des Jeux. Pour eux, l'expansion de la robotique au Québec passe par une telle reconnaissance. Parce que ce statut permettrait aux élèves d'avoir accès à des infrastructures qui leur font défaut à l'heure actuelle. Et surtout, de développer un programme d'études qui lui est consacré. On a déjà des programmes sport-études, art-études. Alors pourquoi pas? Se demande Maude Mello. Aux États-Unis, 4 États considèrent déjà la robotique comme un sport, soit le Texas, le Minnesota, le Connecticut et l'Arizona. Un combat à poursuivre. Dans la dernière année, les jeunes de Regina Assumpta ont soumis une pétition à l'Assemblée nationale en mars qui a récolté près de 1000 signatures. Ils ont créé un site web consacré à leur initiative et ont monté une vidéo pour expliquer leur idée. Ils ont été invités sur des plateaux de télévision et à la radio. On a aussi rencontré le réseau du sport étudiant du Québec, RSEQ, en leur disant que le manque de compétition et d'infrastructures était un problème pour des milliers d'élèves en robotique du Québec. Explique Zijian Sun. Pour la première fois cette année, RSEQ Montréal a accepté d'offrir un soutien technique à First Québec, responsable de la compétition de robotique dans la province, pour organiser une nouvelle compétition hors saison le 31 mai. En d'autres mots, des milliers d'élèves en robotique qui ne se sont pas qualifiés pour compétitionner hors de la province auront une nouvelle chance de tester leur robot. Si le gouvernement a pour le moment refusé de reconnaître la robotique comme sport, les élèves de Regina Assumpta ne baissent pas les bras. Cette année, résume Zijian Sun, ça a été notre meilleure saison. En savoir plus. 5000. Nombre de jeunes âgés de 4 à 18 ans qui participent à des compétitions de robotique au Québec. Source First Québec. C'était Mission La robotique pour tous et toutes. Un texte de Lila Dussault, paru le 18 mai 2025 dans La Presse.
Aveugle de l'esprit, un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 21 mai 2025 dans La Presse. Fermez les yeux, après avoir lu ces lignes idéalement, et essayez d'imaginer une voiture. Maintenant, essayez de vous souvenir de l'odeur d'un feu de camp ou du goût du citron. Vous y arrivez? Martin Bédard, lui, est incapable de générer de telles images mentales. Il est aphantasique, comme le serait entre 1 et 4 % de la population. L'homme de 47 ans m'a écrit en espérant faire connaître son histoire. Je suis aveugle de l'esprit. Par exemple, je ne peux ni me rappeler le visage de ma sœur décédée il y a 7 ans, sans photo, ni me représenter mes souvenirs visuellement. Ma mémoire fonctionne uniquement de manière verbale, conceptuelle. Rien ne s'imprime en image dans ma tête. C'est en regardant un témoignage au sujet de la fantaisie sur YouTube en 2023 que Martin Bédard a appris qu'il n'était pas comme les autres. Sceptique, il a demandé à sa blonde « Si je te parle de mes parents, tu les vois dans ta tête ?» « Ben oui », qu'elle a répondu. Il est tombé des nues. Au fil de ses recherches sur la fantaisie, Martin a eu accès à différentes clés pour mieux se comprendre. Voilà pourquoi il trouvait ça plate, lire. Les mots n'évoquent aucune image mentale chez lui. Voilà pourquoi il se sentait déconnecté émotionnellement. Difficile de bien ressentir ce qu'autrui lui confie quand il n'arrive pas à visualiser la scène. Voilà pourquoi c'était parfois compliqué au travail. Les tâches liées à la mémoire visuelle sont ardues quand on vit avec la fantaisie. Si seulement il avait su avant. C'est le professeur de neurologie cognitive Adam Zeman qui a donné un nom au phénomène en 2015. Il vient du terme grec « fantasia », soit « imagination ». Avec le préfixe « a », on pourrait croire à une absence d'imagination. Pourtant, certains artistes sont aphantasiques. La créativité peut se déployer, peu importe notre façon d'habiter notre tête. En fait, il s'agit plutôt d'une difficulté de générer des images mentales de manière volontaire. Ce qu'on sait aujourd'hui au sujet de la fantaisie, c'est qu'elle est multisensorielle et se décline en gradation. On peut n'avoir qu'un sens affecté ou plusieurs, et ce, à différents degrés. L'imagerie mentale peut être floue ou carrément inexistante, comme dans le cas de Martin Bédard. On sait aussi que la fantaisie peut affecter des personnes qui ont connu un accident vasculaire cérébral alors que d'autres semblent nés ainsi. Martin Bédard, comme certains scientifiques, soupçonne pour sa part qu'il puisse exister un lien entre la fantaisie et l'état psychologique. Martin compose avec un trouble de déficit de l'attention et un trouble de la personnalité limite. Certains traumatismes ont affecté sa santé mentale. Ceci pourrait-il avoir amené son esprit à se fermer aux images passées? Malheureusement, il ne trouve pas de réponse à ces questions dans le milieu de la santé. Le phénomène est peu connu et le soutien envers la communauté aphantasique plutôt mince au pays. C'est devenu un peu ma mission de vie de faire connaître cette réalité, dit Martin, qui a sollicité nombre de vedettes et de journalistes scientifiques à la quête d'un micro pour sensibiliser le public à ce manque d'informations. C'est du côté de l'Europe que j'ai pour ma part trouvé un chercheur en mesure de m'en apprendre plus sur le sujet, Alain Chauvin, maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et membre du Laboratoire de psychologie et neurocognition, LPNC. Il coordonne depuis 2023 une enquête internationale sur l'imagerie mentale de la fantaisie à l'hyperfantaisie. Ça, c'est l'autre côté du spectre. Soit quand on imagine quelque chose qui se mélange à la réalité, proche de l'illusion. Si ses collègues et lui ont voulu s'intéresser à la fantaisie, c'est d'abord parce qu'il n'existe pas de mesure diagnostique à son effet. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander à quelqu'un s'il voit des images mentales ou non. Et ici, diagnostic est à mettre entre guillemets, car selon Alain Chauvin, la fantaisie ne serait pas un trouble, mais un style cognitif, un autre mode de pensée. L'étude a entraîné plus de questions que de réponses jusqu'à maintenant. L'équipe a, par exemple, discuté avec un spécialiste de l'imagerie mentale, selon qui l'apprentissage moteur complexe est impossible sans imagerie mentale. Comme les personnes aphantasiques arrivent à faire du sport, il y a soit un problème dans la définition du phénomène, soit dans la manière de la mesurer. En fait, le gros problème, c'est qu'on essaie de mesurer une image mentale, illustre Alan Chauvin. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable. En plus, ce qu'on veut mesurer, c'est son absence. Donc, on mesure l'absence d'un truc qui n'est pas mesurable. D'un point de vue méthode, c'est compliqué. J'ai ri. Ça sonne compliqué, oui. Alan Chauvin dit « Il y a même un article qui dit que les personnes avec l'aphantasie sont les seules personnes honnêtes. C'est-à-dire que toutes les autres, on n'aurait pas vraiment d'image mentale, en fait. » J'avoue que je ne suis pas certaine si je vois une table quand je ferme les yeux et que je m'y efforce, ou si je vois le concept d'une table. Une chose est sûre, plusieurs personnes relatent des défis liés à une absence d'imagerie mentale. Alan Chauvin reconnaît que l'apprentissage basé sur des images n'aidera pas les élèves aphantasiques à cheminer, par exemple. Or, selon certains, le phénomène aurait aussi ses avantages. Et si les troubles post-traumatiques étaient moindres chez les personnes aphantasiques, puisque les images du passé ne s'imposent pas à elles? Martin Bédard voit l'autre côté de cette médaille. Je n'ai pas de souvenirs visuels de ma sœur. Je ne peux pas revoir les moments partagés avec elle. Difficile de faire un deuil sans image. J'aimerais mieux m'en souvenir, puis pleurer. S'il reste bien des choses à saisir, quant à la fantaisie, le phénomène soulève déjà des questions sur la façon dont on perçoit l'imaginaire, voire sur ce qu'on aimerait personnellement revoir ou non. Martin Bédard a raison de solliciter notre attention. Le sujet est fascinant, non? C'était « Aveugle de l'esprit », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 21 mai 2025 dans la presse.
Une invasion de rats sème l'émoi dans Hochelaga, un texte de Marco Fortier paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. Une invasion de rats sème l'émoi dans le quartier Hochelaga, à deux pas d'une école primaire. Des résidents sont convaincus que l'espacement de deux semaines des collectes d'ordures favorise la prolifération des petites bêtes, attirées par les sacs de déchets éventrés qui jonchent les trottoirs. La multiplication des rats est le sujet de discussion de l'heure près de l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption, rue Darling, à Montréal. Les résidents des rues avoisinantes et de la ruelle Winnipeg, derrière l'école, affirment croiser des rongeurs même en plein jour. J'en ai vu autant depuis quelques mois que dans les 10 années précédentes, affirme Nathan Van der Moulen, qui habite rue Saint-Germain. Le père de 3 jeunes enfants constate que les rats sont attirés par les sacs de déchets qui traînent en tout temps sur les trottoirs, ou par l'odeur de restes de table qui émanent des bacs derrière les restaurants de la rue Ontario. Il estime que la majorité des résidents respectent l'horaire de la collecte des ordures, mais que les délinquants qui sortent leurs déchets n'importe quand ou les laissent dans les sacs sur leur balcon créent des conditions susceptibles d'attirer les rats. Le père de famille est favorable à la collecte des ordures à intervalles de 2 semaines plutôt qu'une semaine, décrété par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, MHM, pour réduire le volume d'ordures envoyées au dépotoir. Le raisonnement des élus est simple. Plus on espace les collectes, plus les citoyens vont envoyer de matière au recyclage ou dans le bac à compost. L'espacement de la collecte des ordures entraîne toutefois des défis, admet Nathan Van der Moulen. Le plus jeune membre de la famille est encore aux couches. Avec la collecte quinzomadaire des déchets, l'odeur des couches peut devenir intense, surtout l'été. Meilleur tri des déchets. Le maire de l'arrondissement de MHM, Pierre Lessard-Blais, considère que la collecte des ordures toutes les 2 semaines est un succès. les citoyens font un meilleur tri des déchets, donc compostent davantage, ce qui contribue à la salubrité des milieux de vie. Contrairement à un sac poubelle rempli de résidus alimentaires, un bac brun fermé hermétiquement n'attire pas la vermine, indique-t-il par écrit. Lorsque la présence de rats est signalée, les équipes municipales tentent de déterminer s'il s'agit d'un drain d'égout brisé à proximité. C'est généralement la cause de la présence de rats. Ensuite, nos équipes vérifient si des enjeux de salubrité sont observables dans les environs, puisque ceux-ci peuvent amplifier la problématique. Si ces interventions ne suffisent pas, l'arrondissement mandate une expertise en extermination, précise le cabinet du maire Lessard Blais. Le non-respect des horaires de collecte et les mauvais comportements individuels, laisser ses déchets dans une ruelle, par exemple, peuvent rendre la vermine visible sur la rue, sans toutefois en être la cause, souligne-t-on. Depuis l'espacement de la collecte des ordures ménagères, qui s'est fait de façon graduelle à partir de 2022, le nombre de plaintes liées à la présence de rongeurs a baissé de façon importante dans l'arrondissement. Par exemple, le nombre de plaintes durant le mois d'avril est passé de 10 à 2 entre les années 2023 et 2025. Pour l'ensemble de la ville, le nombre de signalements de la présence de rongeurs est passé de 914 en 2021 à 1166 en 2024. Ce nombre est de 252 pour les quatre premiers mois de 2025. Rectifier le tir. Le Parti Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, réclame que la collecte des ordures se fasse chaque semaine, plutôt que toutes les deux semaines, entre le 1er juin et le 30 septembre. Il suffit de se promener dans les rues du secteur pour constater qu'il y a des odeurs nauséabondes, des bruits de mouches et davantage de vermine durant l'été, dit la conseillère Alba Zuniga Ramos. Le parti appuie le principe de la collecte quinzomadaire pour réduire le volume de déchets, mais l'administration Plante doit rajuster le tir devant les effets pervers de cette décision, souligne l'élu de l'opposition. Ensemble Montréal réclame un véritable plan de lutte contre les rats. La ville engagerait systématiquement une procédure de dératisation lors de travaux dans les égouts. Toutes les résidences et tous les commerces seraient munis de bacs fermés pour conserver les déchets. Et les poubelles en bordure de rue ou dans les parcs seraient dotées d'un couvercle. Les brigades de propreté seraient aussi actives toute l'année. C'était « Une invasion de rats sème l'émoi dans Hochelaga », un texte de Marco Fortier paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir.
Au ciel, il y a aussi des étoiles. Un texte d'André Duchesne, paru le 25 mai 2025, dans La Presse. Lorsqu'elles parlaient du ciel à leurs élèves, les Ursulines de Québec n'évoquaient pas uniquement le bon Dieu, les anges et le paradis. Elles leur parlaient aussi de planètes, d'étoiles et d'astronomie. Comme elle savait aussi enseigner la chimie, la physique et plusieurs autres disciplines scientifiques. Elles l'ont fait avec grand sérieux et une persévérance remarquable, conclut-on à la lecture de « Femmes de science », ouvrage de Mélanie Lafrance, adapté de sa thèse de doctorat réalisée à l'Université Laval. Durant des décennies, la transmission des connaissances des Ursulines aux jeunes filles de Québec est à l'image de celle des prêtres diocésains aux garçons au séminaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne s'en tient pas aux cours de base et à la religion. Dès l'aube du 19e siècle, l'enseignement des sciences est pris très au sérieux pour diverses raisons, stratégiques, nationalistes, religieuses. On veut, par exemple, élargir l'enseignement afin de freiner une possible migration des jeunes femmes vers des collèges anglophones au programme bien garni, ce qui risque de corrompre leur foi et leur mœurs, assure-t-on. Et puis, enseigner les sciences n'est pas tourner le dos au mystère divin, explique l'autrice. Au contraire, la communauté des Ursulines s'assure ainsi d'associer les sciences exactes au paradigme de la théologie de la nature. Autrement dit, toutes ces merveilles existent grâce à Dieu. Il reste que les religieuses, dont plusieurs pionnières viennent des États-Unis, ne prennent pas les choses à la légère. Elles font appel au savoir de leurs confrères du séminaire pour s'enrichir. Elles font acheter des manuels et des instruments en Europe. Elles participent même à l'exposition universelle de Chicago, 1893, où leurs travaux sont récompensés de 2 médailles. Elles passent aussi de la théorie à la pratique. Ainsi, page 101, nous voilà dans la cour du pensionnat en train d'observer une éclipse solaire avec des verres peints au noir de fumée pour éviter des dommages aux yeux. Charmant. Lorsqu'au début du XXe siècle, les autorités ecclésiastiques, essentiellement masculines, ont pris les rênes de l'enseignement au Québec, elles encouragent pour les jeunes femmes un virage vers les arts épistolaires et ménagers pour endiguer une poussée de féminisme. Or, en réponse, les Ursulines n'abolissent pas les cours de sciences. Elles ajoutent une classe d'arts ménagers dans la liste des cours offerts. Mélanie Lafrance a largement exploré les archives de la congrégation pour en ramener à la surface des éléments tels extraits des annales, lettres, herbiers, photographies et cartes permettant d'étoffer son propos. Le tout est proposé dans un emballage qui a tout pour plaire au lecteur. Livre grand format, couverture et pages souples, iconographie abondante, tableaux, encadrés, etc. On s'y promène avec grand plaisir, une fois passé l'avant-propos, la préface et l'introduction qui s'étendent trop longtemps avant de passer aux vraies affaires. La recherche s'arrête à 1936, avec l'affiliation du pensionnat avec l'Université Laval pour la création du cours classique. C'était « Au ciel, il y a aussi des étoiles », un texte d'André Duchesne, paru le 25 mai 2025 dans la presse.